France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Après le grand écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop et le premier roman d'Anthony Delon, émission que vous pouvez retrouver en podcast Balado Diffusion, voici un récit bouleversant, une ode à la paresse, un artiste qui porte la créolisation et un hommage à un grand écrivain du Sud. Voici le sommaire de ce nouveau voyage francophone.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Deux prix Goncourt sont avec nous cette semaine. Lydie Salvert revient en librairie avec une ode à la paresse engagée et frontale qui dénonce le système du travail qui atténue et use nos vies. Et si on voyait les choses autrement, c'est la question que nous poserons ensemble. Laurent Godet propose quant à lui un récit entre le reportage et la fiction autour des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Un choc littéraire, un texte d'une intensité bouleversante. Bonjour Laurent Godet.
Bonjour Emmanuel.
Ce texte Terrasse est adapté au théâtre. On est avec les victimes, les secours et tous ceux qui ont vécu ce drame. On pourrait croire que vous étiez sur place. Comment vous l'avez écrit ce livre-là, Laurent ?
Non, j'étais comme tant d'autres dans les rues de Paris ce soir-là et j'ai vécu comme tant d'autres cette espèce de temps un peu vertigineux où on sent que quelque chose s'ouvre, on sent que c'est mauvais et on ne sait pas très bien quand est-ce que ça va se terminer. Et voilà, j'ai repensé à tout ça au moment d'écrire Terrasse.
Alors c'est magistral, hein, je vous le dis déjà, c'est bouleversant, c'est très difficile à lire. On va vivre un moment très particulier tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Nous sommes aussi avec Nicolas Pagnol à l'occasion des 50 ans de la mort de Marcel Pagnol. Un texte inédit de l'écrivain provençal vient d'être adapté en BD. Nous verrons ce qu'en pensent nos libraires. Et puis vous entendrez l'artiste comorien Elias qui jouera un titre de son nouvel album dans notre studio. Et on commence avec l'actualité francophone de la semaine. C'est la fête de la librairie indépendante. 650 librairies en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg y participent. Bonjour Marie-Rose Garnieri.
Bonjour.
Vous êtes libraire à Paris, directrice de la librairie des Abbesses, très connue à Paris, présidente de l'association Verbe à l'initiative de cette fête depuis 26 ans déjà. À quoi sert cet événement, Marie-Rose ?
Alors, il sert à rassembler les libraires, ce métier, pour dire un petit peu au public déjà la chance d'avoir toute cette diversité de libraires et cette multiplicité de libraires sur tout le territoire et de façon aussi très homogène comme ça, cette présence du livre, ce qui est assez unique, ce qui est un peu une exception dans le monde, puisque vraiment, on est le pays vraiment des librairies, des éditeurs et des livres. Et donc, c'était d'abord reparler de cette chance, la montrer, la rendre visible en la rassemblant, mais c'est aussi tenter d'élucider pour les lecteurs, que c'est une fête qui est tournée vers les lecteurs, comment on pense dans ce lieu, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y trouve, quelle est l'importance de ce lieu, d'avoir la pensée comme ça à portée de main, des livres à portée de main à côté de chez soi.
Oui. Alors c'est vrai,
quelle est la valeur de tout ça ?
Marie-Rose, vous êtes très bavarde, mais c'est vrai que cette journée, elle s'adresse aux lecteurs. Et vous voulez mettre en valeur le travail des libraires indépendants et leur rôle de prescripteur. C'est vous qui pouvez mettre en valeur, par exemple, un livre dont personne ne parle.
Tout à fait. L'idée, c'est de montrer, de rassembler ces libraires dans leur diversité, dans leur particularité, et c'est aussi de montrer ce que les libraires apportent d'inimitable à la vie du livre.
Alors, comme chaque année, un livre cahier est édité. C'est un recueil des poèmes de Jacques Roubaud qui célèbre le monde animal.
Alors là, l'idée, c'était d'offrir aussi un livre d'artiste. On a essayé d'éditer un livre dans la tradition des grands livres d'artistes parce que vous savez que Bonnard a illustré Verlaine, Matisse a été illustré par Picasso. Je voulais rendre hommage à un très grand poète qui s'appelle Jacques Roubaud, qui est protéiforme, qui a fait de la poésie, qui a été mathématicien, qui a fait des proses incroyables, des livres de deuil. Donc je voulais rendre hommage à ce grand poète pendant qu'il était vivant parce qu'on le connaît pas assez et j'adorais ces livres qui s'appellent Les animaux de personne, qui sont des poèmes pour les enfants de à 77 ans. L'idée, c'était pour honorer le métier de la librairie, qu'on offre un livre qui soit à l'artiste.
Voilà, 25 000 exemplaires sont tirés. On se le procure comment ? En achetant des livres chez son libraire ? C'est gratuit ou vous le vendez ?
Voilà. Non, nous ne le vendons pas.
D'accord.
Mais par contre, il est vrai que comme c'est une journée quand même qui est là pour aussi soutenir les librairies, donc il faut acheter un livre et on vous l'offrira avec grand plaisir avec une rose.
Oui, c'est ça. Merci beaucoup Marie-Rose Garnieri. La fête de la librairie indépendante se déroule tout le week-end. Une rose vous sera offerte lors de la l'achat de vos livres. Et je le rappelle ici, il faut acheter ces livres dans une librairie indépendante. C'est essentiel pour la liberté et la diversité culturelle. On pense aussi à toutes les librairies qui sont en difficulté en ce moment. Certaines ferment et on est de tout cœur avec elles. Merci Marie-Rose, à bientôt.
Je vous remercie beaucoup de votre soutien. À bientôt et salut vos deux auteurs que j'adore chez vous.
Ils sont trois, quatre même avec Elias. Merci à vous, voici nos libraires. Les quatre libraires sont avec nous comme chaque semaine. Bonjour Audrey Martel.
Bonjour.
Vous représentez le Canada, libraire à Trois-Rivières, dans la librairie indépendante L'Exèdre. En Suisse, c'est Claire Honneau de la librairie Atmosphère à Genève qui est avec nous. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Belgique, vous dans la librairie du théâtre Le Public à Bruxelles, toujours aux avant-postes. Et vous défendez aussi, hein, évidemment, la librairie indépendante. Vous allez offrir une rose, vous ou pas d'ailleurs? Tiens, j'ai pas demandé aux autres.
Mais je vais me gêner, moi.
D'accord. Bonjour la France, bonjour Thomas Osser.
Bonjour Emmanuel.
Vous participez à l'événement?
Oui, absolument.
Bien, une rose et donc le livre.
Et le livre en plus qui est très très, très beau.
Oui. Vous êtes libraire à Puteaux dans la librairie Lamandier.
Exactement.
Et à Puteaux.
Ça va plutôt bien.
Ça va plutôt bien. Merci beaucoup Thomas.
Avec plaisir.
On part tout de suite dans l'univers de Marcel Pagnol. Bonjour Nicolas Pagnol.
Bonjour Emmanuel.
Sur cette musique de Vladimir Kosma, BO du film La gloire de mon père, Marcel Pagnol est mort le 18 avril 1974, il y a tout juste 50 ans. C'est l'année de sa commémoration, de cette commémoration. Et à cette occasion, vous publiez une adaptation en BD d'une pièce de théâtre inédite, écrite vers 1954. Avant la célèbre trilogie La gloire de mon père, Le château de ma mère et Le temps des secrets, trilogie débutée en 57. Comment l'avez-vous déniché, ce texte? Dans les archives de votre grand-père?
Tout à fait, mais tout d'abord, laissez-moi vous remercier de m'inviter sur votre émission, qui est une émission incontournable sur les ondes françaises. Je suis très heureux d'être ici. Oui, cette pièce inédite, je l'ai découverte dans les archives familiales, chez ma grand-mère, qui habitait dans ce grand hôtel particulier, avenue Foch, où elle a vécu des moments très heureux avec mon grand-père. En faisant le tour des archives, il y a une vingtaine d'années, je suis tombé sur le manuscrit et trois tapuscrits, et ma grand-mère refusait que les archives sortent de chez elle. C'était elle un peu la présence de son mari qui était toujours là. Et il aura donc fallu attendre son malheureux départ en 2016 pour que mon père et moi décidions enfin de communiquer ce manuscrit.
Alors Gabi ou la belle et l'argent racontent la vie d'une jeune femme entretenue par de riches amants successifs. Son père vit à ses crochets, son cousin est à ses côtés par intérêt car elle possède une fortune a priori, sauf que la fortune s'étiole.
Tout à fait, le père a fait de mauvais placements.
Oui.
Voilà, il va falloir que Gabi se refasse une santé financière. Comment va-t-elle faire? Va arriver un notaire véreux qui va leur proposer une arnaque au titre nobiliaire. Alors effectivement, nous ne sommes pas du tout chez un Marcel Pagnol que l'on connaît. Là, il sort de la facilité. Il va se rapprocher un petit peu de l'univers de Guitry.
Oui, c'est ça. C'est du théâtre de boulevard presque. Hein.
C'est du théâtre de boulevard, tout à fait. Et pour ceux qui connaissent bien l'œuvre de mon grand-père, je dirais que c'est un mélange entre Topaz, le rapport à l'argent, et la prière aux étoiles, donc la vision d'une femme libre, forte, pleine de défauts, autant qu'un homme.
Alors, il est souvent question d'argent, vous avez raison de le préciser. Dans l'œuvre de Pagnol, César, Panis, les personnages de cette pièce, Gabi, sont très vénaux. C'est le moins qu'on puisse dire.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a toujours quelque chose à voir avec la classe sociale, les différences de classe sociale, l'argent, dans toute l'œuvre de mon grand-père. Je crois que le plus évident, c'est lorsqu'on pense à Topaz ou au Marchand de Loire.
Oui, oui.
On est typiquement dedans. Et là, effectivement, l'argent a une place centrale, car Gabi, comme vous l'avez dit, est très vénale.
Et oui,
surtout
oui.
son père, qui me fait penser à un David Niven désargenté, un petit peu comme ça, un vieux dandy.
Mais c'est vrai que c'est étonnant, Nicolas Pagnol, parce que votre grand-père n'aimait pas les hommes d'affaires. On l'a compris dans son œuvre, on le constate dans Topaz, dans La gloire de mon père aussi. Pourtant, il a aimé l'argent, Marcel Pagnol. Il a aimé la lumière sur son travail, mais il a toujours conservé au fond de lui une envie de vie simple, loin des caméras et des micros. Il a tenté d'être, par exemple, horticulteur, orpailleur aussi. C'est un homme du Sud qui sait se réfugier sur ses terres, loin des apparats.
Il n'aimait pas l'argent, Marcel.
Non.
Il a eu de l'argent parce qu'il voulait être libre.
Il en a profité quand même.
Bah, écoutez, quand vous en avez, hein, dans l'abondance d'eau, le fou est assoiffé. Je crois que c'est Bob Marley qui chantait ça.
Il a bien géré les affaires aussi.
Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a bien géré ses affaires. Oui, c'est un remarquable homme d'affaires. Il ne courait pas après l'argent, il courait après sa liberté. Être son propre producteur, son propre distributeur, avoir ses propres studios, ses propres salles de cinéma, être son propre éditeur. Mm-hmm. Voilà, ce qui lui a permis d'avoir une vie confortable avec tous les embêtements que cela...
Mais avec cette envie de tout plaquer parfois aussi.
Mais il a souvent tout plaqué. À 42, il plaque tout.
Oui, il va cultiver des œillets.
Et la source est perdue.
À la Gaude, je crois, au-dessus de Nice.
Au-dessus de Cannes-sur-Mer, exactement. Et suite au décès de sa fille, malheureusement, âgée de 3 ans et demi, il avait comme projet avec ma grand-mère de se faire orpailleur dans le Gardon pour aller chercher de l'or. Bon, c'était quelqu'un qui avait une vie simple, pas du tout la vie mondaine qu'on peut parfois peut-être lui prêter, non.
Bon, en tout cas, il y a toujours une petite morale dans l'œuvre de Pagnol, beaucoup de morale, subtile, c'est jamais ostentatoire, comme on dit. Gabi, elle aime l'argent, mais elle reste une femme libre, plus ou moins indépendante. Et surtout, elle sera rattrapée par sa conscience avec le nouveau venu, celui qu'elle doit épouser pour avoir de l'argent. Elle doit le tordre, comme on dit dans le Sud, mais elle dira « Je veux bien lui voler son argent, mais je ne veux pas lui faire de mal ».
Oui, ben je crois que c'est là, on est typiquement dans le monde de Pagnol. C'est-à-dire, ce sont des personnages qui ont une morale. Même si à la fin, elle finit par partir... par retrouver sa vie de conquête. Elle ne veut pas faire de mal à cet homme. Elle est tout de même manipulée par un père escroc.
Oui. Bon, on ne dit pas tout quand même. Hein. On va s'arrêter là. On va voir du côté de nos libraires avec la Belgique et la Suisse qui ont lu cette bande dessinée. Donc, la Suisse, Claire Renaud.
Oui, alors moi j'ai retrouvé avec plaisir la plume de votre grand-père et j'ai ce côté désuet qui rappelle son cinéma. J'ai trouvé que tout était réussi, autant le dessin, les personnages qui sont très marqués ou l'intrigue prenante et puis une ambiance. Il y a vraiment une ambiance dans cette bande dessinée. Donc moi je la recommande, elle est tout à fait à découvrir.
Bien, la Belgique, Déborah Damblon, qu'en pensez-vous ?
Moi je ne m'y attendais pas, mais j'ai été surprise par le ton et par la causticité de cette histoire. Parce que j'ai découvert une facette de Pagnol que j'ignorais totalement ou dont je n'avais pas du tout le souvenir. Alors moi, contrairement à Claire, je redoutais le côté désuet et j'ai trouvé que c'était finalement assez moderne comme ton.
Oui, c'est vrai.
Entre autres, grâce aux illustrations, je trouve, parce qu'elles insufflent de la vie au personnage. Il y a une palette de couleurs qui est à la fois rétro et contemporaine. Mmh. Et puis je trouve qu'on se retrouve avec un objet à la croisée des époques et c'est vraiment réussi.
C'est pour ça que vous l'avez adapté en bande dessinée, Nicolas Pagnol, parce que j'aurais préféré, moi, une pièce de théâtre, pour tout vous dire, parce que la BD, elle est très compacte, les dessins, enfin, c'est très touffu, et on s'attache au texte de Pagnol, parce que c'est vraiment génial. L'histoire est vraiment géniale, et c'est étonnant, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais moi, j'ai regretté un peu les dessins, alors que j'adore la bande dessinée.
Mais je vous comprends tout à fait. Mais il était très difficile pour moi de publier le texte intégral alors que Marcel ne l'avait pas fait de son vivant. À la lecture de la pièce, on s'apercevait que Marcel n'avait pas fait la dernière repasse avant de la monter. Il ne l'a pas montée. Et je ne me sentais pas la responsabilité d'inscrire cette pièce dans une intégrale officielle Marcel Pagnol. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas envie qu'elle soit montée au théâtre. Ça n'a rien à voir. Mais c'est un objet à part, un texte à part.
D'accord. Bon, la scénariste de la BD, Véronique Grissot, qui a fait un travail remarquable, a dit avoir fait l'impasse sur des passages politiquement incorrects dans le texte. Parce que c'est vrai que c'est une histoire très patriarcale, un autre temps avec des femmes entretenues qui réussissent socialement grâce, disons-le, à la position financière des hommes. Vous avez supprimé, enfin, elle a supprimé des passages ?
Oui, elle a été tout à fait libre de le faire, bien sûr.
Pourquoi ?
Parce que, comme déjà, on ne peut pas rendre toute l'histoire en BD, sinon la BD fait 300 pages. Et là, nous avons le même problème avec, là, nous sortons Marius, Fanny, César aux éditions Grand Angle. Chaque volume fait 100 pages, on est obligé de couper la moitié du texte. Et puis, je pense que la grande problématique aujourd'hui, c'est que les gens, apparemment, ne savent plus recontextualiser les auteurs. Quand je vois qu'on veut caviarder de grands auteurs, ou voire même des Disney, bon, c'est parfaitement aberrant. Donc, au lieu de tendre le bâton pour me faire battre, j'ai préféré tout simplement faire supprimer ces passages, quitte à les reprendre au théâtre.
Merci d'avoir été honnête comme ça, Nicolas Pagnol. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Félicitations pour votre travail. Gabi, où la belle et l'argent est paru aux éditions Michel Lafon. Vous avez séduit nos libraires. Nous recevons aujourd'hui dans notre studio un artiste comorien qui a parcouru le monde pour assouvir sa passion pour la musique. Il monte sa première formation à Mayotte et sort un album métissé avec les rythmes traditionnels des Comores et de l'océan Indien en fusion avec la musique occidentale, funk et rock. Plus de 200 concerts à travers l'Europe et le Canada, un exil en France et toujours cette envie de croisement des cultures. Elias est un artiste qui porte la créolisation des langues et de la musique. Avec son nouvel album Zangoma, il dévoile la richesse de ce métissage sans jamais oublier les racines. Voici un extrait de son troisième album studio dans la librairie francophone avec ses musiciens, des basses magnifiques. Vous êtes prêt, Elias? Vous mettez les bras en l'air? Toujours, toujours prêt. Locataire, c'est le titre qu'il interprète dans notre studio en version acoustique. Elias.
Show a love.
Elias dans les studios de la librairie francophone avec Locataire. Incroyable formation à trois avec Jérémy Hortal et Fred Girard. Venez vous installer le temps de ce jingle, comme on dit, Elias.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Bonjour Elias.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous, félicitations.
Marhaba, comme on dit chez nous.
Qui veut dire ?
Merci.
Ce titre Locataire, écrit avec le mot terre, T-E-2-R-E, évoque le déchirement de l'exil. Vous qui avez connu l'exil, vous vous êtes rendu compte que l'on a toujours besoin de se reconnecter à ses racines.
Toujours. On fuit quelque chose, mais on retourne pour rechercher. C'est une chanson pour dire aussi, en fait, on est étranger, même chez soi, parce qu'on part et on revient. Ouais. On est toujours différent des autres. On est toujours pointé du doigt partout. Et on cherche un nid quelque part, donc la terre.
Vous êtes né aux Comores, vous, dans une famille qui vous a aidé à construire, comme ça, votre univers musical. Mais vous avez vite pris la décision de partir à Mayotte, puis en France, en métropole. Vous avez constaté une fois sur place qu'il faudra ramer, dites-vous. Votre musique ne suffisait pas quand vous avez débarqué.
Oui, 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 toujours, parce que on connaît un peu l'histoire entre les trois îles des Comores et Mayotte, le déchirement qu'il y a. Et je me dis, ouais, de toute façon, on parle la même chose, on mange la même chose, on est pareil, mm-hmm. on se ressemble. Mais toujours, il y a toujours ce petit doigt qui est pointé devant. Donc, il faut ramer, il faut trouver une façon de vivre ou survivre avec le sourire.
So, vos textes sont très élaborés, engagés, Elias. Ils racontent des histoires autour de l'exil, de la politique, de la corruption, de notre responsabilité aussi face au changement climatique. Vous témoignez sur le monde avec vos chansons.
En tout cas, j'espère
eh oui.
apporter une petite touche.
Les textes sont très importants pour vous.
Ah oui, 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 très, très, très importants. Les textes, pour moi, c'est... je pense que j'ai retrouvé, à travers la musique, une façon de s'exprimer. Et donc, pour moi, les textes sont importants, oui.
Votre regard sur le monde dévoile aussi des vies qui tournent en rond aux Comores depuis l'indépendance. Les politiques font tout pour maintenir ces vies qui végètent, dites-vous.
Oui, parce que si les gens n'ont pas faim, ben, ils ont le temps de réfléchir et peut-être de faire la révolution. S'ils ont faim, ils vont dire « Directeur, t'as pas 500 francs ». Donc à chaque fois, on revient à la même chose. Donc pour moi, c'est après c'est ma théorie, hein, pour moi, c'est fait exprès. Parce que c'est un peu les mêmes, hein. Qui tournent autour de cet État, et chacun son tour, et par contre le peuple, non.
La politique divise les citoyens et les peuples, c'est ce que vous racontez.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et même dans l'histoire de Mayotte, on joue le jeu, histoire de maintenir ce chaos, pour que chacun puisse remplir les poches.
Pour que les Comoriens et les Mahorais soient chacun de leur côté.
Moi je dis, entre les Comoriens et les Comoriens de Mayotte, ça c'est pareil.
Attention, c'est la politique qui nous sépare. Elle risque aussi de nous voiler notre histoire. Attention, c'est la politique, moi, qui nous sépare. Même la mer nourricière est devenue cimetière. Non, 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 non.
La division entre Mayotte et les Comores accentuée par les décisions politiques actuelles aussi pour faire baisser les flux migratoires en direction de Mayotte. Le gouvernement français a annoncé vouloir revenir sur le droit du sol. Et cela, ça vous révolte, Elias ?
Parce que la population mahoraise, elle souffre de la violence. Et c'est quelque chose de vrai. Je trouve que les politiciens, en tout cas la France, donne des fausses réponses et pourtant la population est toujours en train de souffrir. C'est pour aller chercher l'électorat de l'extrême droite, malheureusement. Et voilà, donc c'est pas des vraies réponses, malheureusement.
Bon, en tout cas, vous croyez profondément au métissage et au vivre ensemble, des valeurs qui peuvent être portées par la musique, par cette musique. Merci beaucoup, Elias. Votre nouvel album, Zangoma, en CD, bien sûr, chez Soulbeat Music et aussi en vinyle et sur toutes les plateformes. Merci, Elias.
Marhaba.
Bonne chance pour cet album.
La librairie francophone.
Et bonjour Lydie Salvaire.
Bonjour.
Vous publiez une ode à la paresse. Depuis toujours, nous aimons les dimanches. C'est le titre de ce récit. Vous dites que la paresse est un art subtil, discret et bienfaisant. C'est une philosophie de vie, la paresse.
Oui, c'est ce qui permet de faire des activités qui ne sont pas des courses de vitesse, qui ne sont pas des courses au fric, qui ne sont pas des courses au rendement, etc.
Ouais.
Qui retrouvent l'art de la lenteur. C'est un art perdu. Et qui sont donc innombrables, comme lire... s'écouter, comme on le fait en ce moment, comme regarder de belles choses, comme s'asseoir en soi et méditer, bref, la paresse est indispensable.
Vous affirmez que nous aimons les dimanches depuis toujours. Pourtant, Lydie, beaucoup d'entre nous redoutent le dimanche. Et ce moment plat, suspendu, entre deux semaines d'activité... On n'est pas tous fans des dimanches.
Mais il y a travail et travail.
Oui.
Il y a le travail que vous faites, que je fais, que Laurent fait,
oui.
qui est un travail choisi,
oui.
désiré, passionnément désiré. Dimanche ou jour ouvrable, ça
ou
n'a
pas,
aucune
oui.
importance.
Ça dépend des métiers, c'est vrai.
Évidemment, moi je pense à ceux qui bossent comme des malades, qui sont fatigués, qui sont amoindris, qui sont abîmés par le travail et qui attendent le dimanche pour récupérer leur force motrice.
Et qui sont exploités par ceux que vous appelez les apologistes du travail des autres.
Oui, parce que cette notion, cette valeur travail a été conçue au milieu du XVIIIe siècle, après la révolution industrielle, par les grands patrons d'industrie, par les conservateurs libéraux, les économistes libéraux. Et il se trouve que cette idée, on l'a intériorisée. Ils l'ont inculqué si bien qu'aujourd'hui, travailler semble un devoir moral, semble une obligation sociale.
Oui. Ça ne l'est pas ? Un devoir moral ? De contribuer à la société, à la marche du monde, Lydie Salvaire ?
Mais alors, parce qu'il y a le travail pour satisfaire aux besoins, et il y a le travail pour satisfaire la production et la production, et pour qu'on consomme et qu'on consomme et qu'on consomme jusqu'à plus soif.
Oui.
Pourquoi ?
Oui. Le travail, d'accord, vous dites, mais pour le bien de tous. Il ne faudrait pas se laisser maltraiter, exploiter, menacer par un dirigeant qui ne sait pas de quoi il ou elle, d'ailleurs, parle.
Oui,
vous écrivez que le monde du travail peut nous rendre laids et méchants.
Absolument. J'en ai l'expérience.
Oui, on l'a
par
tous.
Par mon père, non mais vraiment, qui était ouvrier maçon et qui arrivait du travail fourbu et irritable, et les gifles valsaient parce qu'il était fatigué. Il était fatigué.
Ça n'excuse pas, ça.
c'est
un autre sujet, mais c'est
une autre histoire.
Alors, selon vous, Lydie Salvaire, le travail exagéré nous use, nous déglingue. Vous appuyez sur des constats d'économistes engagés et alternatifs qui affirmaient qu'on pourrait se limiter à 4 heures de travail par jour.
Oui.
Il y a par exemple l'économiste anglais Keynes qui affirmait que 3 heures de travail par jour bien réparties seraient amplement suffisantes.
Oui. Et Bertrand Russell aussi.
Oui. En 32. Dans l'éloge de l'oisiveté, Bertrand.
Qui, dans l'éloge de l'oisiveté, fait des calculs savants. Il était mathématicien et a dit que si le travail était équitablement réparti, ce qui est loin d'être le cas, nous pourrions nous en tirer avec 3 à 4 heures par jour. Et ça n'était pas des révolutionnaires forcenés et des excités du tout, du tout. C'était des philosophes, des penseurs, tout ce qu'il y a de calme.
Mais alors, votre livre, vous savez qu'on peut lire d'une autre façon, parce que vous usez beaucoup d'humour dans ce livre. Vous vous appelez l'ami Lydie Salvaire, vous vous mettez en scène, et vous expliquez ici au micro qu'effectivement, c'est en fonction des métiers. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire, quand on lit votre texte, mais quand même, beaucoup se réalisent par leur travail, beaucoup aiment travailler.
Certains, bien sûr, mais ça...
Dans tous les métiers. D'ailleurs.
Sûrement, mais dans des conditions supportables. Je ne sais quel Américain a fait le compte des, comment il appelle ça, les bullshit jobs.
Ouais.
C'est comme ça.
Des métiers qui servent à rien.
Mais qui servent à rien. Juste à enrichir les actionnaires de je ne sais quelle entreprise. Mm. Par exemple, des ingénieurs qui travaillent à l'obsolescence des objets. Dites-moi quelle est l'utilité de ce travail.
Ah bah ça, moi je l'ai expliqué.
L'obsolescence.
Bah ça permet de changer d'objet, d'en racheter d'autres.
Mais oui,
de faire vivre la société économique.
Mais oui,
Lydie
mais de
Salvert.
Pousser à la consommation de façon peut-être.
Mais bien sûr, mais c'est l'objectif.
Mais Monsieur Paul Valéry disait que c'est besoin.
Mais Monsieur Paul Valéry, c'est un autre temps.
Inculqué. Mais non, c'est toujours vrai. Il y a des faux besoins qui nous sont inculqués, mais oui, vraiment. Oui.
On va y venir d'ailleurs, parce que vous faites la liste de ces faux besoins.
On va se fâcher.
Quoi, tous les deux ? Certainement pas. Non, je provoque. On va voir du côté de nos libraires qui ont lu ce pamphlet, récit, vous l'appelez comment, vous ?
Je dis que c'est un livre transgenre.
C'est ça. Allons-y avec nos libraires qui ne sont pas transgenres. Déborah Damblon, en Belgique, à Bruxelles.
Mais qu'est-ce que vous en savez, Emmanuel ? Pardon, passons. Alors, Madame Salvert, je ne vais pas vous mentir. J'ai été assez déstabilisée que vous nous emmeniez comme ça, sans façon, dans vos dimanches. J'ai été surprise et pas tout à fait transportée au départ, je dois bien le dire. Parce que vous savez, moi, les dimanches, hein, c'est pas toujours mon truc. Alors, les dimanches des autres, je vous dis même pas. Mais au fil des pages, et bien contre toute attente, j'ai plutôt aimé ce que vous partagez. Puis en particulier, le regard que vous posez sur nos quotidiens, qui sont parfois absurdes, hein, n'est-ce pas ? Et donc, je m'en vais me sélectionner une série de vos phrases qui font mouche, me les placarder et ne pas oublier de m'en souvenir.
Alors, il y en a plein. Hein, des phrases qui font mouche chez Lydie Salvert, elle a une écriture très ciselée, très fine. C'est le prix Goncourt, Lydie Salvert, hein, aussi, il faut le préciser, son écriture est magnifique. Quel que soit le sujet, d'ailleurs, elle arrive à faire ça, c'est incroyable. La Suisse, allons-y, avec vous, Claire Renaud.
Ah, moi, j'ai retrouvé avec plaisir votre verve rebelle et provocatrice. Et une fois de plus, en effet, votre vocabulaire est très, très inventif. C'est un puissant fond. Et j'ai envie de rajouter une belle leçon de français. Et comme Emmanuel l'a déjà dit, vous avez beaucoup d'humour. Donc, ça rend la lecture de ce texte joyeuse. Et moi, j'ai envie de le mettre dans toutes les mains des grands patrons.
Alors, ces grands patrons que vous critiquez avant de donner la parole au Canada avec Audrey Martel, vous dites qu'il y a ces patrons de grandes boîtes internationales qui aiment rencontrer, je cite, Donald Trump ou un autre port de cette engeance, ça peut toujours servir, ou honorer un plan cul avec une escort girl 5 étoiles qui leur servira à la fois d'égout et de terrain de golf, d'une pierre deux coups, prestation sans capote, la fille est nickel chrome.
Oui, c'est d'un mauvais goût total.
C'est vous qui l'avez écrit, Lydie Salvert.
C'est Salvert, c'est pas moi, c'est
Salvert. Ah, c'est l'ami Salvert.
C'est l'ami Salvert qui,
d'accord, vous assumez,
a très mauvais goût.
Oui. Le Canada, Audrey Martel.
Quel plaisir de vous retrouver là où on ne vous attendait pas, Lydie Salvert, dans ce pamphlet qui encourage à l'oisiveté. Un livre à déposer définitivement sur les bureaux des chefs d'entreprise et dans les salles de pause des employés. Qui sait, ça pourrait bien être le début d'une révolution.
Elle a lancé la révolte, Lydie Salvert, chez nos libraires. Vous proposez donc de nous limiter au strict nécessaire, de s'affranchir du grand marché de la consommation et de la consolation. Qu'est-ce que c'est le marché de la consolation ?
Eh bien, ce sont toutes ces activités auxquelles se livrent souvent les sexagénaires comme moi, une fois qu'ils sont à la retraite et qu'ils font du macramé,
de la rumba, Zumba.
Du tango, de toutes ces choses, par terreur, parce qu'ils n'ont pas appris justement la paresse, par terreur de se trouver vide et confronté à la mort, pour reprendre l'idée pascalienne du divertissement. C'est le divertissement selon Pascal.
Alors, vous invitez effectivement à la lucidité, vous écrivez un moment, « Nous déclarons simplement que nous cherchons à tâtons, les yeux ouverts dans la pénombre, à humaniser les vies que l'on nous fait et qui ne sont que de foutues saloperies de vie. »
Pour certains, oui. D'où ce slogan qu'on disait en 68, je crois qu'on perd sa vie à la gagner. Beaucoup de gens perdent leur vie à la gagner.
C'est une forme de sagesse pour vous, la paresse ?
C'est de la Rochefoucauld qui le dit. Il dit que...
Et l'ami Salvert, elle dit quoi?
L'ami Salvert de ce plateau. Elle répète que, bêtement ce que dit Rochefoucauld, qui disait « La paresse à flatter nous rend sincères, la paresse à parvenir nous rend honnêtes, la paresse à se disputer nous rend pacifiques. » Bref, il disait « Il faut très peu d'efforts aux paresseux pour être bons.
Laurent Godet, vous êtes paresseux?
Non, je crois pas.
Non, vous aimez la paresse?
J'aime pas les dimanches, mais je les ai explosés depuis longtemps. Mais je suis dans le cas de figure d'un travail choisi, ouais. Donc mais il y a raison, ça n'a rien à voir.
Vous êtes
moi
un gros
aussi,
travailleur.
Je travaille comme une bête.
Mais oui,
quand
mais j'adore ça. Mais ralentir, je suis très sensible à ça. Je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à ralentir.
Tous, oui. Merci beaucoup Lydie Salvert.
Merci Emmanuel.
Vous restez avec nous avec le récit incroyable de Laurent Godet dans un instant. Depuis toujours, nous aimons les dimanches est paru aux éditions du Seuil. Lydie Salvert, il faut lire ce livre. Merci à vous. Emmanuel. À suivre Laurent Godet, donc un récit bouleversant conçu pour le théâtre sur les attentats du 13 novembre à Paris en 2015. Nous allons vivre un moment très très particulier. Ce sera après l'artiste franco-suisse Yoa dans la librairie francophone.
Elle boit du matcha avec ses copines. Elle pense aux garçons qui lui font du mal. Mélange le yoga et les aspirines. Elle vit sa vie comme si c'était un drame. Elle sait plus pourquoi le soir elle déprime. Avant de plonger dans un rêve subliminal. Mais tu sais pas. Avec ses copines, oublie les garçons qui lui font du mal. Un peu à l'étroit dans sa paire de jeans. Passer des heures à éviter les drames. Elle met des tonnes de crème sur son visage. Oh mon Dieu, comme c'est criminel de prendre de l'âge. Pas d'amour en vue dans son paysage, mais seulement quelques traumatismes.
L'artiste franco-suisse Yoa avec Matcha Queen.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Laurent Godet dans la librairie francophone cette semaine, vous publiez Terrasse, donc aux éditions Actes Sud, un récit adapté au théâtre qui raconte par le prisme de plusieurs voix cette nuit du 13 novembre 2015 à Paris lors des massacres sur les terrasses de café et dans la salle de concert du Bataclan. C'est un texte d'une puissance infinie. Je n'ai jamais lu ça depuis la création de cette émission, Laurent. C'est un choc absolu. Alors, je compte lire des passages, mais je vous avoue que je ne sais pas si je vais y arriver. Là aussi, c'est la première fois que je dis ça à l'antenne. Dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous avez écrit ce livre ?
Oh ben, c'est pas le livre le plus facile que j'ai écrit. Effectivement, c'est une plongée d'une année à peu près, comme chacun de mes livres. Et c'est vrai que c'est dur. Alors, je vais pas me plaindre ici à l'antenne, mais c'est être avec tout ça pendant si longtemps, essayer de trouver un chemin pour être juste. Il y a plein de questions que je me suis posées pour ce texte que je ne me pose jamais. La question du respect, la question de l'égard. C'est des choses qui m'habitent pas du tout d'habitude quand j'ai j'écris et qui là ont totalement bordé le travail. Donc c'était un peu nouveau et j'avoue que j'ai eu plusieurs fois le stylo qui tremblait. Oui. Mmh.
Petit rappel des faits avant de parler de votre récit.
Des explosions aux abords du Stade de France. 3 au total à partir de 21h17. La nuit d'horreur vient à peine de commencer.
Je vois en fait à ce moment-là une voiture avec un mec cagoulé en noir et qui tirait comme ça. Ta, 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 ta.
À 21h49, alors que 1500 personnes assistent à un concert de rock au Bataclan, 3 assaillants font irruption et ouvrent le feu.
Les uns sur les autres recroquevillés à attendre tous les coups de Kalachnikov, les gens comme si les gens se faisaient torturer, les gens avaient mal parce que se faisaient tirer dessus. C'était une boucherie, c'était un carnage.
Et puis, peu avant minuit et demi, les policiers de la BRI donnent l'assaut.
Un document de nos confrères de France 24. Il y a donc dans ce texte des voix fictionnelles. Plusieurs points de vue, les victimes directes, les proches, les policiers, les soignants, Laurent Godet. Certains personnages défient la logique en se trouvant à plusieurs endroits, comme ces deux jumelles qui fêtent leur anniversaire à Paris. Vous donnez des noms, mais en fait, ils n'ont pas d'importance, ces prénoms. Dès le début, vous soulignez que chacun puisse être un autre. C'est pour mettre en évidence la dimension collective de ce drame, je suppose.
Oui, c'était. Moi, j'avais envie d'être dans le flux du « nous » de ce soir-là. Il s'est passé quelque chose qui était de l'ordre du « nous », d'une expérience collective de peur, de suspension, et c'est ça qui m'intéressait effectivement, et pas être d'emblée dans le dessin de personnages. Il y a des moments où le texte ralentit un peu et où quelqu'un se dessine de manière assez claire, parce qu'il dit qu'il est commissaire ou infirmière, mais ce qui m'incombe plus, c'est le flux, c'est la traversée de cette nuit-là à plusieurs. Ça m'intéresse beaucoup d'aller jusqu'à des gens qui n'étaient pas au cœur de l'horreur, mais qui ont été impactés et qui garderont sûrement un souvenir très très long de ça.
Victime collatérale, comme on dit. Quand 3 minables barbares sortent d'une voiture noire en direction d'une terrasse de café, personne ne peut imaginer ce qui va se passer. Et vous racontez à la place des victimes le moment suspendu qu'elles vivent. Celles qui se lèvent pour aller chercher un verre mais qui tombent, sans savoir pourquoi elles se retrouvent au sol. Ces clients qui tournaient le dos à la rue. Celles qui se rendent compte qu'elle est sur le point de mourir et qui pensent à tout ce qu'elle ne fera plus. La liste est longue et elle dit aussi « Je ne vieillirai pas ». Je ne mourrai pas de toutes ces morts que j'ai parfois imaginées et qui toutes me terrifiaient.
Bah, c'est une des choses qui m'a le plus impressionné en replongeant dans le détail de la chronologie. Et c'est la question du... Alors on peut appeler ça le hasard, on peut appeler ça le destin. C'est la question de... En fait, ça se joue à quelques centimètres ou à quelques secondes. C'est-à-dire celui qui s'est assis là, il va mourir. Celui qui est assis juste à côté, il va survivre. Et puis celui qui peut-être a un peu traîné en route et s'est arrêté devant une vitrine, il va survivre aussi parce que finalement, il n'arrivera pas au bon moment. Enfin, au mauvais moment. Quand on commence à penser à ça comme une sorte d'architecture de destin, c'est vertigineux, on ne s'en sort pas en fait. Et j'imagine combien les familles de victimes refont tout le temps cette chose-là en disant « et si il n'était pas parti, et si il avait attendu, et si il m'avait passé un coup de fil juste avant ». Enfin voilà, on ne peut pas s'empêcher, c'est une petite musique entêtante, c'est
le jeu du hasard.
C'est la musique du malheur, absolument.
Parmi les premiers secours arrivés sur les lieux, il y a de jeunes pompiers. C'est l'un des passages les plus émouvants de ce livre, Laurent Godet. Ils ont 22 ans et ne sont pas préparés à cela. Malgré tout leur entraînement, toutes les formations, ils ne sont pas préparés à ça. Et tous les valides et blessés se précipitent sur eux.
Ben oui, parce qu'ils incarnent une fonction. Ils ont été appelés, eux, par l'événement. Comme les policiers, comme les médecins le seront plus tard, les pompiers arrivent parce qu'il se passe quelque chose. Et donc, évidemment, pour les gens, voir un pompier, c'est déjà une sorte de soulagement. Quelque chose va arriver, on va nous aider. Sauf que sous l'uniforme, il y a des jeunes gens de 20 ans. Comment être préparé à ça? C'est impossible. Et ils arrivent devant une scène de guerre, alors que voilà, ça ne fait pas du tout partie de la formation. C'est quelque chose qu'on a peu entendu, et j'aimais bien l'idée que le texte allait aussi explorer le flux mental des policiers, par exemple, et même des hommes des commandos, qui, eux, peut-être, sont les plus préparés à ça.
Quentin est un gamin, un pompier de 20 ans. Il dit « De nous, il ne voit que l'uniforme qui nous débarrasse de tout ce que nous sommes, qui efface notre jeunesse, nos hésitations, notre peur même. D'ordinaire, ces hommes et ces femmes prendraient soin de nous, nous diraient de nous mettre à l'abri, d'appeler nos parents. Mais nous n'avons plus de parents. Nous ne sommes plus jeunes. Pompiers de Paris, nous ne sommes plus que cela. »
Oui, c'est le rapport de l'âge. C'est-à-dire que c'est des jeunes gens qui, si on leur enlève leur uniforme, on a envie de les prendre par le bras en disant « rentre chez tes parents ». Mais il y a un uniforme et ça fait toute la différence.
Et puis il y a les secours appelés au téléphone, celui qui répond à l'un des appels qui se rend compte qu'il parle à une femme qui est dans le Bataclan. Là encore, sidération, moment suspendu, Laurent, vous écrivez « Je l'entends gémir comme un enfant qui essaye de contenir ses sanglots. Je lui dis que je parlerai toute la nuit s'il le faut. Je lui dis à voix basse « Ne bougez plus, il ne faut pas qu'il vous voie. »
Ça, c'est un des moments les plus difficiles à écrire pour moi dans le texte, parce qu'il y a un enregistrement qui existe et qui est insupportable à écouter, où on entend quelqu'un mourir au téléphone, et voilà, moi je me suis engouffré dans le mental de la personne qui était au bout du fil. Qu'est-ce qu'on fait? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on ne considère pas cette personne comme une victime directe, en fait? C'est-à-dire qu'avoir été là, avoir essayé de maintenir le lien comme ça le plus longtemps possible, c'est être sur le front, en fait. Ouais. Donc, en fait, cette personne était dans la salle, on pourrait dire, même si elle était dans un centre d'appel.
Il dit, avec les doutes déjà qui vont me suivre, je le sais, toute la nuit, toute ma vie, je ne saurai jamais ce qui l'a trahi. Si c'est moi, si c'est l'espoir que lui donnait ma voix. Elle est morte dans sa terreur d'enfant, et j'étais là, tout près, et si loin à la fois. Bon, allez, les libraires. Désolé, ça tombe sur vous, Thomas Hausser.
Alors bah moi au départ, je dois dire que j'étais assez sceptique de voir l'un de mes écrivains français préférés s'emparer d'un tel sujet. Et puis bah j'ai commencé à lire et puis bah moi j'ai vraiment pas pu m'arrêter. Je vous ai même relu. Enfin je fais jamais ça. Il y a des pages qui m'ont bien sûr ému aux larmes hein, là comme Emmanuel et d'autres qui m'ont donné vraiment à réfléchir sur les notions de hasard et de destin comme vous en parliez. Pour moi votre livre est vraiment beau, il est juste. Il est essentiel et puis il est vraiment à prescrire à tout le monde. En fait, c'est déjà un classique.
Merci, je ne sais pas quoi dire.
Audrey Martel au Canada, qu'en pensez-vous?
Ah, votre livre, M. Godet, est peut-être le livre le plus triste que j'ai lu de ma vie, mais aussi l'un des plus beaux. Pour arriver à cette puissance narrative, ça prend certainement beaucoup de talent, de maîtrise et d'une grande, grande empathie. J'avais jamais pensé devoir remercier un homme de m'avoir fait autant pleurer, mais aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire. Merci, Laurent Godet, pour ce livre extraordinaire.
Bon, je ne vais pas pouvoir raconter l'histoire de ce passant Mathieu qui tient la main de Julie parce que c'est trop dur. Il y a ses parents aussi qui attendent des nouvelles, Laurent. Vous vous mettez dans la tête de la maman des deux jumelles qui fêtent leur anniversaire à Paris, qui ne donnent pas signe de vie. Elle les appelle sans cesse et elle n'a pas de nouvelles. C'est la figure universelle de la souffrance des parents en manque de nouvelles, cette femme-là.
Oui, et puis c'est comment est-ce qu'un événement si dérisoire, d'essayer d'appeler quelqu'un qui ne décroche pas, ça nous arrive à tous 1000 fois dans une journée. C'est pas très grave. Il y a 1000 raisons de ne pas décrocher. Et là, tout d'un coup, plus le temps passe et plus ça devient absolument terrifiant. Donc c'est comment est-ce que l'anecdotique, le normal se tort et devient monstrueux. Ça m'a intéressé. Et vous parliez de Julie et du jeune Mathieu. Au fond, pour moi, c'était aussi une exploration de l'héroïsme. C'est-à-dire qu'il y a eu des gestes cette nuit-là, sûrement, dont on ne saura jamais rien, qui étaient parfaitement héroïques. Et quand je dis héroïque, c'est serrer la main de quelqu'un qui est en train de mourir. Ça en fait partie. Il y en a sûrement eu beaucoup. Il y a eu des pensées héroïques de gens qui étaient certainement en train de se sentir partir et qui ont convoqué leur esprit une dernière fois, je ne sais pas moi, un paysage ou le visage d'un enfant. Ça aussi, c'est j'avais envie de le leur rendre, en fait.
Les premiers policiers qui entrent dans le Bataclan sont des héros aussi, Laurent. Ils sont deux d'abord, dont un commissaire, puis sont rejoints par des renforts que l'on n'oblige pas à entrer avant l'arrivée du commando d'intervention qui est formé pour ça, lui. Pourtant, personne ne va hésiter en acceptant cette idée possible du sacrifice. Il y a un policier qui témoigne et qui a témoigné, c'est un témoignage réel celui-ci. Et vous racontez ces deux policiers qui laissent la place à un moment au commando et ils ne rentrent pas au commissariat. Ils vont rester dans la rue. Ils vont s'occuper à faire la circulation. Sauf qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils sont couverts de sang.
Moi, ça me donne envie de pleurer. C'est-à-dire qu'on a peu parlé de ces hommes qui, effectivement, ont été les premiers à rentrer dans ce qu'on appelle la fosse du Bataclan, qui ont sorti des corps, des blessés, et qui ensuite, et c'est normal, c'est le protocole d'intervention, doivent céder leur place au commando. Mais comment revenir, comment retrouver le monde? C'est impossible. Ils ne peuvent pas aller boire une bière, ils ne peuvent pas rentrer au commissariat, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Donc, effectivement, ils font la circulation, mais il leur faut une médaille à tous, quoi, je veux dire.
Et l'un des membres du commando qui va arriver face au minable barbare, qu'on appelle terroriste, mais moi que j'ai toujours appelé minable barbare, et je continuerai malgré les pseudo-menaces qu'on peut recevoir dans ces cas-là, mais ce sont des minables barbares. Il dit « Tout crépite autour de nous, je ne suis plus celui que vous connaissez, un frère, un mari, un père. Je ne porte plus de prénom, n'ai plus de projet, d'amour, de passé. Je suis un corps, vif, violent, un visage encagoulé. Ceux qui m'entourent sont comme moi. »
Oui, parce que eux, c'est des hommes qui ont été entraînés à ça, c'est des hommes d'action. Et ça aussi, ça m'intéressait beaucoup. Je crois que dans ces moments-là, l'action, ça se résume à une question d'espace, avancer. Aller jusqu'à la porte où se sont retranchés les minables tueurs, comme vous les appelez.
Minables barbares.
Barbares, pardon. Mmh. Oui, c'est vraiment ça, c'est avancer, faire encore un pas, faire encore un mètre. Mmh. C'est ça le courage, en fait, parce qu'ils sont sous le feu assez vite des autres. Et donc, et puis, il y a la question assez vertigineuse de tuer aussi. Ce qu'on demande à ces commandos, c'est de neutraliser l'ennemi. Et heureusement qu'ils l'ont fait, et heureusement qu'ils l'ont fait vite et bien, parce que ça aurait pu être bien pire.
Juste un mot sur ces hommes et femmes qu'on a oubliés et que vous citez aussi, vous leur rendez hommage, c'est très très beau. C'est à la fin de ce texte, tous ceux qui ont nettoyé la salle, parce qu'il a fallu nettoyer la salle.
Bien sûr, comme il faut nettoyer les trottoirs quand il y a un accident, quand il y a des morts, on n'y pense jamais, mais il y a des gens qui font ça absolument.
Et cet homme qui se sent entouré d'ombre, il dit « toutes les victimes ne sont pas parties, même si elles ont été évacuées par des brancards, il y en a qui sont restées
». Mais ça, c'est mon petit tropisme aussi. J'aime bien jouer avec la frontière du monde des vivants et du monde des morts. Et pour moi, c'est une source d'espoir, d'ailleurs, que voilà, il y a encore quelque chose de l'ordre de la présence dans les lieux.
Merci beaucoup, Laurent Godet.
Merci, Emmanuel.
Je ne sais pas
merci
si je peux vous remercier parce que
je suis très touché par votre émotion.
Oui, mais vraiment très ému. C'est incroyable. Enfin, voilà, vous verrez quand vous lirez ce livre, Terrasse, qui est paru aux éditions Actes Sud. Ça me laisse sans voix. Merci beaucoup,
merci
Laurent, pour votre fidélité, en tout cas, à cette émission. La chronique des libraires.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Les coups de cœur et les coups de gueule des libraires. Un coup de cœur en Belgique, Déborah Damblon.
Oui, Emmanuel, pour le premier roman jeunesse de Nathalie Skowronek. Et ici aussi, un sujet très très fort, parce que c'est la guerre, mais vu par les yeux d'un photographe spécialisé. Alors, pour permettre de rendre le récit acceptable et accessible, elle se centre sur une magnifique histoire d'amitié entre un homme et une chienne. C'est fort, c'est beau et... c'est incontournable, franchement.
Chienne de guerre, donc aux éditions Côte, 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 c'est ça ?
C'est exactement ça.
Côte, Côte, Côte. Merci Déborah. Un coup de gueule en France, Thomas Hausser.
Oui, un coup de gueule contre certains auteurs et leurs éditeurs qui, année après année, publient beaucoup. Alors quand je dis beaucoup, c'est beaucoup trop même, hein, Emmanuel. Je pense au Joanne Farr, au Eric Emmanuel Schmitt, au Jacques Attali et bien sûr à Michel Onfray particulièrement. D'autant que je parle pas même du contenu ou de la qualité de leurs livres, mais juste de la fréquence de parution. J'ai fait ma liste, j'ai bossé, je vais pas tout vous dire parce que j'en ai pour 4 minutes. Mais Joanne Farr, 2024-2023, c'est 8 livres par an. Et donc du coup, nous les libraires, même qu'ils lisent beaucoup, on n'arrive plus à suivre, on n'arrive même plus à conseiller nos clients, et ça, moi, ça commence à m'agacer.
On salue nos amis, quand même, de la librairie francophone, Joanne Spar, que vous
bien
avez
sûr,
cité avec Emmanuel Schmitt et tous les autres, mais bon. Très bien, merci Thomas. Un coup de cœur au Canada, Audrey Martel.
Oui, une amie m'a conseillé de lire « Corps rebelle » de Gabrielle Lisacolor, paru aux éditions Québec-Amérique. C'est définitivement le livre à lire pour amorcer une réflexion sur la grossophobie systémique qui modifie notre rapport aux autres et à nous-mêmes. « Corps rebelle » est écrit dans une langue moderne qui nous donne l'impression de recevoir les confidences d'une amie. Et la version audio, lue par Catherine Étier, une autrice et chroniqueuse que l'on adore ici au Québec, rend l'expérience encore plus intéressante.
« Corps rebelle, réflexion sur la grossophobie chez Québec-Amérique ». Merci Audrey. Un coup de gueule en Suisse pour terminer, Claire Renaud.
Eh oui, ça commence vraiment à m'agacer. Vous cherchez donc à commander un livre d'art en français, édité par un éditeur français basé en France, mais il y a le même exemple d'ailleurs à Genève, et tout est écrit en anglais sur le site. Vous perdez du temps à essayer de modifier la langue, mais des fois vous ne pouvez même pas, il n'y a pas le petit onglet. Alors moi je me demande, à qui s'adressent ces sites ? Parce qu'en tout cas, ils n'aident pas la production et la création française. Et est-ce qu'ils estiment que les anglophones sont les seuls à s'intéresser à l'art ?
Oui, mais il faut parler couramment anglais en même temps, Claire. C'est ça la francophonie. Je retire cette phrase tout de suite. Merci beaucoup Claire, merci à vous. Merci à tous d'être intervenus tout au long de cette émission. Pour conclure, le son de l'outre-mer avec l'artiste tahitien Eto.
Thank you.
un extrait de Torola Nui E de l'artiste tahitien Eto. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Instagram et X pour communiquer avec vous. À la réalisation, Stéphane Combe, avec Jérôme Ragano et Guillaume Fichu à la technique, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Verret et Christophe Magère de France Inter avec Constance Gonin et les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, nous irons dans une forêt avec la poétesse québécoise Hélène Dorion qui est au programme du bac français. Entre autres, bonne semaine à vous, très bon week-end. N'oubliez pas la rediffusion de la librairie francophone à 1h du matin avec le bonus créole d'Elias.